installez-vous confortablement, c'est l'heure de C'est moi qui lis. Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez C'est moi qui lis, la chronique qui vous fait découvrir ou redécouvrir un livre unique et magnifique. Chaque lundi, mercredi et vendredi soir, je vous partagerai un livre qui m'a touchée, surprise, choquée. Je vous en dirai bien sûr un peu plus sur l'auteur ou l'autrice, sur le processus d'écriture du livre, et je vous en lirai un passage. Ce soir, armez-vous de vos plus beaux mousquets, on parle d'Alexandre Dumas. Il est né le 24 juillet 1802, et oui, je parle bien du père, pas du fils. Sa grand-mère étant noire, il a connu de nombreuses remarques racistes. Et même s'il reçoit les bases de l'éducation primaire, il n'a pas beaucoup de connaissances, et c'est sa calligraphie qui le fait engager comme coursier chez des notaires. En 1822, il quitte Villiers pour Paris dans l'espoir d'échapper à la pauvreté. Il y travaille comme clerc de notaire, puis en tant que secrétaire pour le duc d'Orléans. En 1824, Alexandre Dumas, fils, naît de son union avec sa voisine de palier et couturière, Laure Labbey. Alexandre Dumas ne reconnaîtra son fils qu'en 1831, après la naissance de sa fille Marie-Alexandrine, qu'il a eue avec l'actrice Belle Creil-Summer. Alors il se marie en 1840 avec l'actrice Ida Ferrier. Il a eu de nombreuses autres liaisons et au moins deux autres enfants. Après 1830 commence à apparaître le roman feuilleton. Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo, La Reine Margot et bien d'autres deviennent de véritables succès. Alexandre Dumas a un rythme de vie effréné. Il travaille beaucoup, gagne également beaucoup, mais dépense encore plus. Il vit à crédit et vend en avance ses droits d'auteur. En 1846, il fait construire son propre théâtre, le Théâtre historique. Malheureusement, le théâtre fait faillite en 1850, notamment à cause de la Révolution de 1848. Alexandre Dumas n'a plus d'argent et finit par fuir ses créanciers pour aller à Bruxelles avec Victor Hugo en 1851 pour protester contre Napoléon III et son coup d'État. Par la suite, il voyage énormément, puis revient à Paris, continue d'écrire et décède le 5 décembre 1870. En tant qu'écrivain, Alexandre Dumas a écrit de nombreuses pièces de théâtre, des romans, de la poésie, des contes, des nouvelles. Au total, il y a plus de 200 œuvres. Alors, c'était très certainement un bourreau de travail, mais il aurait été tout simplement impossible qu'il écrive autant d'ouvrages seul. À l'époque, certains pensaient qu'il avait fait travailler des nègres littéraires. Mais les recherches de l'époque, ainsi que les contemporaines, ont montré qu'il était en collaboration avec Auguste Maquet, qui cependant, à l'époque de son procès, lui avait demandé de l'argent pour impayés et droits d'auteur. Alors, ce qui est certain, c'est que sans Auguste Maquet, bon nombre des œuvres d'Alexandre Dumas n'auraient pas vu le jour. Ce soir, j'ai décidé de vous parler des Trois Mousquetaires. Alors oui, c'est un livre très connu, mais qui finalement l'est peut-être plus par son histoire que par le roman en lui-même. On en parle tout de suite après Tash Sultana et son titre Pretty Lady. Take my hand.
listen to a lesson, learn a time. But I know we will over this. What can I break through the other side? See, I see how you see me. Is it the same way I really see myself?
Vous écoutez toujours C'est moi qui lis sur le 101.1 FM. C'était le titre Pretty Lady de Tash Sultana. D'Artagnan s'associe à Porthos, Athos et Aramis pour déjouer les complots du cardinal Richelieu. Il s'oppose également à la redoutable Milady, l'espionne de Richelieu, ainsi que le comte de Rochefort. D'Artagnan devient le quatrième mousquetaire et tombe amoureux de Constance Bonacieux. Arrivera-t-il à rapporter à temps les ferrets que la reine Anne avait remis à son amant, le duc de Buckingham ? L'honneur de la reine est en jeu. Les Trois Mousquetaires, chapitre 5. Les Mousquetaires du Roi et les gardes de Monsieur le Cardinal, page 116. D'Artagnan ne connaissait personne à Paris. Il alla donc au rendez-vous d'Athos, sans amener de second, résolu de se contenter de ceux qu'aurait choisi son adversaire. D'ailleurs, son intention était formelle de faire au brave mousquetaire toutes les excuses convenables, mais sans faiblesse, craignant qu'il ne résultât de ce duel ce qui résulte toujours de fâcheux dans une affaire de ce genre, quand un homme jeune et vigoureux se bat contre un adversaire blessé et affaibli. Vaincu, il double le triomphe de son antagoniste. Vainqueur, il est accusé de forfaiture et de facile audace. Au reste, où nous avons mal exposé le caractère de notre chercheur d'aventure, où notre lecteur a déjà dû remarquer que D'Artagnan n'était point un homme ordinaire. Aussi, tout en se répétant à lui-même que sa mort était inévitable, il ne se résigna point à mourir tout doucettement, comme un autre moins courageux et moins modéré que lui eût fait à sa place. Il réfléchit aux différents caractères de ceux avec lesquels il allait se battre et commença à voir plus clair dans sa situation. Il espérait, grâce aux excuses loyales qu'il lui réservait, se faire un ami d'Athos, dont l'air grand seigneur et la mine austère lui agréaient fort. Il se flattait de faire peur à Porthos avec l'aventure du baudrier, qu'il pouvait, s'il n'était pas tué sur le coup, raconter à tout le monde, récit qui, poussé adroitement à l'effet, devait couvrir Porthos de ridicule. Enfin, quant au sournois Aramis, il n'en avait pas très grand peur, et en supposant qu'il arrivât jusqu'à chez lui, il se chargeait de l'expédier bel et bien, ou du moins en le frappant au visage, comme César avait recommandé de faire aux soldats de Pompée, d'endommager à tout jamais cette beauté dont il était si fier. Ensuite, il y avait chez D'Artagnan ce fond inébranlable de résolution qu'avait déposé dans son cœur les conseils de son père. Conseil dont la substance était « Ne rien souffrir de personne que du roi, du cardinal et de monsieur de Tréville. » Il vola donc, plus qu'il ne marcha, vers le couvent des Carmes déchaussés, ou plutôt déchaux, comme on disait à cette époque, sorte de bâtiment sans fenêtres, bordé de prés arides, succursale du pré aux clercs, et qui servait d'ordinaire aux rencontres des gens qui n'avaient pas de temps à perdre. Lorsque D'Artagnan arriva en vue du petit terrain vague qui s'étendait au pied de ce monastère, Athos attendait depuis 5 minutes seulement, et midi sonnait. Il était donc ponctuel comme la Samaritaine, et le plus rigoureux casuiste à l'égard des duels n'avait rien à dire. Athos, qui souffrait toujours cruellement de sa blessure, quoiqu'elle eût été pansée à neuf par le chirurgien de M. Tréville, s'était assis sur une borne et attendait son adversaire avec cette contenance paisible et cet air digne qui ne l'abandonnait jamais. À l'aspect de D'Artagnan, il se leva et fit poliment quelques pas au-devant de lui. Celui-ci, de son côté, n'aborda son adversaire que le chapeau à la main et sa plume traînant jusqu'à terre. « Monsieur, dit Athos, j'ai fait prévenir 2 de mes amis qui me serviront de second, mais ces 2 amis ne sont point encore arrivés. Je m'étonne qu'ils tardent, ce n'est pas leur habitude. Je n'ai pas de second, moi, monsieur, dit D'Artagnan, car arrivé d'hier seulement à Paris, je n'y connais encore personne que monsieur de Tréville, auquel j'ai été recommandé par mon père, qui a l'honneur d'être quelque peu de ses amis. » Athos réfléchit un instant. « Vous ne connaissez que monsieur de Tréville ? » demanda-t-il. « Oui, monsieur, je ne connais que lui. »« Ah, ça, mais... » continua Athos, parlant moitié à lui-même, moitié à D'Artagnan. « Ah, ça, mais si je vous tue, j'aurai l'air d'un mangeur d'enfants, moi. »« Pas trop, monsieur, » répondit D'Artagnan, avec un salut qui ne manquait pas de dignité. « Pas trop, puisque vous me faites l'honneur de tirer l'épée contre moi avec une blessure dont vous devez être fort incommodé. » Très incommodé, sur ma parole, et vous m'avez fait un mal du diable, je dois le dire. Mais je prendrai la main gauche, c'est mon habitude en pareille circonstance. Ne croyez donc pas que je vous fasse une grâce. Je tire proprement des 2 mains, et il y aura même des avantages pour vous. Un gaucher est très gênant pour les gens qui ne sont pas prévenus. Je regrette de ne pas vous avoir fait part plus tôt de cette circonstance. Vous êtes vraiment, monsieur, dit D'Artagnan en s'inclinant de nouveau, d'une courtoisie dont je vous suis on ne peut plus reconnaissant. « Vous me rendez confus ?» répondit Athos avec son air de gentilhomme. « Causons donc d'autre chose, je vous prie, à moins que cela ne vous soit désagréable. » Bleu, que vous m'avez fait mal. L'épaule me brûle. Si vous vouliez permettre, dit D'Artagnan avec timidité. Quoi, monsieur ? J'ai un baume miraculeux pour les blessures, un baume qui me vient de ma mère, et dont j'ai fait l'épreuve sur moi-même. Eh bien ? Eh bien, je suis sûr qu'en moins de 3 jours, ce baume vous guérirait, et au bout de 3 jours, quand vous seriez guéri, eh bien, monsieur, ce me serait toujours un grand honneur d'être votre homme. D'Artagnan dit ces mots avec une simplicité qui faisait honneur à sa courtoisie, sans porter aucunement atteinte à son courage. « Pardon, monsieur, » dit Athos, « voici une proposition qui me plaît. Non pas que je l'accepte, mais elle sent son gentilhomme d'une lieue. » C'est ainsi que parlait et faisait ses preux du temps du Charlemagne, sur lequel tout cavalier doit chercher à se modeler. Malheureusement, nous ne sommes plus au temps du grand empereur. Nous sommes au temps de monsieur le cardinal, et d'ici à 3 jours, on saurait, si bien gardé que soit le secret, on saurait, dis-je, que nous devons nous battre, et l'on s'opposerait à notre combat. Ah ça, mais ces flâneurs ne viendront donc pas ? Si vous êtes pressé, monsieur, dit D'Artagnan à Athos, avec la même simplicité qu'un instant auparavant, il lui avait proposé de remettre le duel à 3 jours. Si vous êtes pressé et qu'il vous plaise de m'expédier tout de suite, ne vous gênez pas, je vous en prie. Voilà encore un mot qui me plaît, dit Athos en faisant un gracieux signe de tête à D'Artagnan. Il n'est point d'un homme sans cervelle, il est à coup sûr d'un homme de cœur. Monsieur, j'aime les hommes de votre tempe, et je vois que si nous ne nous tuons pas l'un l'autre, j'aurai plus tard un vrai plaisir dans votre conversation. Attendons ces messieurs, je vous prie, j'ai tout le temps, et cela sera plus correct. Ah, en voici un, je crois. Le roman Les Trois Mousquetaires est paru de mars à juillet 1844 en tant que feuilleton dans le journal Le Siècle. Il a été ensuite édité en volume et réédité en 1846 avec des illustrations, ce qui prouve son succès. Alors oui, comme je l'ai dit, je sais, vous connaissez très certainement Les Trois Mousquetaires. Mais l'avez-vous déjà lu en entier ou ne connaissez-vous de l'histoire que ce qu'on en dit ? Personnellement, j'ai relu Les Trois Mousquetaires avec grand plaisir. Bon, question personnage, j'avoue que parfois ils sont assez caricaturaux, mais très attachants et touchants. L'intrigue reste toujours aussi prenante, et surtout on y retrouve l'humour et le sarcasme de Dumas. Une fois qu'on a commencé à le lire, impossible de le lâcher. Et puis, on a tendance à l'oublier, mais Les Trois Mousquetaires est le premier tome d'une trilogie. Et oui, 20 ans après, paru en 1845, et Le Vicomte de Bragelonne, paru en 1847, nous permettent de retrouver cet univers de cap et d'épée. Et puis bien sûr, il y a de nombreuses adaptations. Et je vous conseille d'ailleurs la série de Musketeers de la BBC. Je trouve que c'est une très belle adaptation, les costumes sont magnifiques, les personnages sont vraiment intéressants. Alors il y a pas mal de libertés qui ont été prises par rapport à l'histoire originale, mais pour moi, ça reste une très belle série. Le saviez-vous ? En 2002, la dépouille d'Alexandre Dumas a été déplacée au Panthéon, aux côtés de 77 autres personnalités. En tout, 73 hommes et seulement 5 femmes ont été transférés au Panthéon. Et uniquement 4 femmes ont été panthéonisées pour leur propre mérite. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. C'était Marion avec la chronique C'est moi qui lis. Retrouvez-la en podcast sur le site internet de Radio U. On se retrouve mercredi pour un épisode sur Alona Kimi, toujours sur le 101.1 FM. Et en attendant, amusez-vous bien.